Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. C'est le 15e épisode de la 2e saison de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Benmokhtar. Bonjour Sabrina.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Ça va bien, je te remercie.
Comment tu pourrais te décrire? Comment tu pourrais te présenter? Dis-nous qui tu es, quoi.
S'il te plaît. C'est parti. Je m'appelle Sabrina Benmokhtar, comme tu l'as dit. Je suis née en Algérie à 28 ans. J'ai été naturalisée à l'âge de 13 ans. Je précise au cas où on parle d'échange de nationalité, parce que ça a été vraiment le marqueur de mon engagement politique. Mais plus sérieusement, je suis caissière, du moins j'étais jusqu'à très récemment. Je suis aussi élue à la ville de Nancy, où on a fait tomber un bastion de droite depuis 70 ans, avec une union de gauche écolo et société civile. Donc voilà à peu près qui je suis.
Super, je te remercie. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Mathilde Viau. Bonjour Mathilde.
Bonjour Léa, bonjour à toutes et tous.
Comment vas-tu?
Ça va super.
Cool, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Oui, moi je travaille à l'Assemblée nationale depuis 7 ans. J'y suis arrivée en tant que collaboratrice de députée d'abord, je travaille avec Noël, ma mère. Et puis ensuite, j'ai été conseillère de la France Insoumise pour les affaires culturelles d'abord et sociales ensuite. Et dans le cadre de cette expérience-là, j'ai fondé un collectif qui s'appelait Chères collaboratrices, qui visait à lutter contre les violences sexistes et sexuelles en politique, qui sont un fléau et qui sont, enfin, en tout cas, qui sont quelque chose d'assez régulier. Et puis j'ai été une des initiatrices du MeToo politique avec Fiona Texer, Madeleine Da Silva, Hélène Goutani, Alice Coffin. Voilà. Et je publie un livre le 25 mai prochain qui va s'appeler L'homme politique, moi j'en fais du compost. Et ensuite, je pense que je vais changer ma façon de m'impliquer en politique et je ne vais pas repartir. En tout cas, je ne veux plus travailler à l'Assemblée nationale après les législatives. Mais j'aimerais bien trouver un moyen d'aider des femmes à prospérer dans ce milieu, parce que le constat qu'on peut faire, c'est que les femmes sont vraiment écartées. Les personnes racisées sont écartées encore plus, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas à l'Assemblée nationale, ou très peu. Et du coup, il y a vraiment une volonté des hommes blancs bourgeois de garder leur place et d'inscrire des codes qui sont excluants pour l'ensemble des autres personnes. Et du coup, voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'aimerais bien m'impliquer pour faire en sorte que ce problème démocratique majeur, l'absence de récits qui ne viennent pas dans le monde démocratique, enfin bref, que c'est une longue présentation.
Ouais, écoute, ça résonne beaucoup, pour moi en tout cas ce que tu dis, parce que comme tu le sais, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler, je viens d'écrire un livre sur la question de la place des femmes en politique et plus particulièrement aussi des enjeux de représentation, de représentativité à l'Assemblée nationale, mais aussi ailleurs dans d'autres instances. La question des violences aussi, c'est quelque chose que j'ai pas mal abordé dans le livre, et aussi la nécessité de faire en sorte que on prenne le pouvoir, quoi, on prenne notre place. Et que ce soit une réalité, non pas juste des chiffres ou des noms sur des listes qui souvent n'arrivent même pas à être élus, ou encore quand elles le sont, sont finalement des cautions parfois aussi, et non pas réellement de pouvoir et de compétences. Donc non, ça résonne très très bien, mais j'en profite d'ailleurs, c'est bien, tu me fais me rappeler que j'ai même pas parlé du projet que je suis en train de développer, qui vise précisément à faire en sorte que les femmes s'aventurent en politique et soient davantage prêtes à s'engager, et plus particulièrement les femmes qui sont féministes. J'ai lancé donc le développement du podcast que vous êtes en train d'écouter. Je le lance avec un développement avec mon éditrice Camille Dumas. On va lancer une newsletter de Popol, qui sera donc une newsletter politique avec un regard féministe, où on fera de la vulgarisation, etc. etc. Et en parallèle, on lance une association, justement, pour permettre aussi à davantage de femmes à s'engager en politique. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui va t'intéresser, Mathilde. Et je profite pour le dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qu'on a besoin de vous, on a presque atteint 50% du premier palier qui nous permettra donc de développer cette newsletter et l'association. Et donc, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous rendre sur Ulule et à taper Popol pour soutenir le projet. Merci beaucoup. Et enfin, petite parenthèse refermée, nous avons aussi le plaisir de recevoir Sana Saïtouli. Bonjour Sana.
Bonjour, bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Ça va, on fait aller, là, on lâche rien.
Ouais, tu vas nous en parler, je sais. Hein. Ouais. Ouais. Toi, t'as pas été épargnée ces derniers jours. Hein.
Non, ouais. Moi, je fais partie des femmes un peu, en ce moment, très taclées, mais on lâche pas, quoi.
Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais, s'il te plaît, te présenter, s'il te plaît?
Mon portable, on m'appelle en même temps. Alors, moi, je suis Sana Saïtouli. Je viens de Sergi, j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans. Je suis une activiste, on va dire, une femme de terrain. J'ai engagée très tôt. J'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier de la Croix-Petit à Sergi, avec toutes les richesses et les difficultés qu'on peut rencontrer. Depuis plus de 12 ans, nous avons cofondé l'association Agir pour réussir, qui met en place pas mal d'actions sur le terrain, qui lutte contre l'enfermement dans les quartiers populaires, qui met en place pas mal d'actions sur des questions de réussite éducative, développement durable, la place de la parité dans les quartiers populaires, enfin vraiment pas mal de choses. J'ai une expérience d'élue locale, j'étais maire adjointe de 2014 à 2020 en tant que représentante de la société civile. Avec mon binôme Nadir Gaghi, on a eu cette expérience hyper intéressante et folle et c'est ce qui nous a vraiment donné envie de prendre sa place en politique, parce qu'on a vraiment vu un peu les rouages de la politique, un peu les codes qui ne nous correspondent pas, on a vu un peu comment ça marchait en interne et on a décidé lors de son mandat déjà de ne pas quitter cette majorité, mais en tout cas de faire entendre les voix, de représenter en tout cas toutes ces personnes, les minorités qu'on ne voit pas forcément, et on a créé l'espace de concertation citoyenne en parallèle, qui était vraiment importante pour nous. C'était vraiment, on avait besoin de retourner à notre base, qui nous permet en tout cas de nous rappeler ce pourquoi un élu est élu en fait. Et du coup, ça nous a permis justement de rassembler pas mal de citoyens et d'être au service de la population et surtout de faire un travail collectif. J'y crois vraiment, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est partir d'un problème personnel vers une solution collective et ce qui nous a amené vers la création du mouvement Sergi Demain et d'être présente en tant que du coup tête de liste en 2020. Une liste citoyenne, écologique, inclusive, etc. Et on a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. On avait fait un score de 6%. Suite à ça, du coup, très vite, on a créé les confinés solidaires. Ce qui était très important pour les citoyens, c'était d'être au service justement des familles en grande précarité, des soignants, etc. Et nous avons par la suite été présents lors des départementales. Et là, incroyable, on a eu une courte campagne et nous avons fait un score de 14%. Et là, on s'est rendu compte qu'on est dans un tournant de quelque chose. Et je suis actuellement candidate pour les législatives sur la 10e. Que dire, c'est une période assez compliquée et en même temps pleine d'énergie. Je pense qu'on aura l'occasion de là tout à l'heure d'exposer un peu la météo du moment sur le territoire. Voilà, merci en tout cas de m'avoir invitée. Et j'entends l'appel de Mathilde qui. Mais Mathilde, moi, je suis là. Si tu veux venir en renfort, donner un coup de main, welcome et échanger avec Sabrina sur ce qui se passe à Nantes. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'énergie, de soutien, de force. Parce que je représente tout ce qui. Je suis une femme, j'ai grandi dans un quartier, je suis racisée. Je suis une maman, etc. Enfin, et on me renvoie ça en pleine face. C'est hyper violent ce qui se passe. Et en même temps, il y a une solidarité qui est en train d'émerger. Et du coup, j'essaie de rester positif et de me concentrer sur l'essentiel et d'aller au bout de nos objectifs.
Merci beaucoup, Sana. C'était une belle présentation et une présentation dynamique, enthousiaste. Ça fait du bien. Du coup, ça va nous permettre de parler de ces législatives, parce que c'est ce qu'on a prévu aujourd'hui. On va parler de ça. Allez, c'est parti. Petite intro qui va bien. Législative, alliance et désunion. Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Ce scrutin parlementaire, contrairement au précédent, fait couler beaucoup d'encre, et pour cause. Au lendemain d'une élection présidentielle qui a bousculé le paysage politique français, les enjeux sont de taille. Entre alliance à gauche et désunion à droite, les partis politiques, anciens comme récents, cherchent tous la meilleure recette pour obtenir le plus de sièges au Palais Bourbon. Car rappelons-le, au-delà des enjeux stratégiques et politiques, les élections législatives représentent également un enjeu financier important pour les partis politiques. Il faut savoir que ce scrutin représente en France la pierre angulaire du financement de la vie politique et les résultats seront déterminants pour les finances des partis politiques pendant les 5 prochaines années. En effet, chaque bulletin rapporte un peu plus de 1,60€ par an au parti du ou de la candidate dont le nom est inscrit dessus, et ce, même si ou il ou elle n'a même pas été élu, à condition bien sûr que son parti ait récolté au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Les diverses formations de gauche sont arrivées à un accord englobant LFI, PS, ELV et PCF. Tant et si bien que ces 4 partis présenteront des candidates et candidats issus de cette union baptisée désormais NUPS. À droite, les velléités de certaines et de certains de s'allier avec le parti du président de la République créent des tensions difficiles à contenir et la débâcle annoncée de LR pousse certaines et certains à retirer leur candidature de peur de ne pas voir leurs frais de campagne remboursés. Au-delà de ces considérations, ces élections représentent aussi des enjeux en matière de représentativité. À quoi ressemblera notre future Assemblée nationale et comment fait-on pour qu'elle nous ressemble vraiment ? C'est de ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, et on commence un peu dans le désordre avec, disons, allez, l'union de la gauche. Qu'en pensez-vous ? C'est quand même une bonne nouvelle, non ? Mathilde, qu'en penses-tu ?
Moi, je fais partie des personnes qui sont absolument ravies de cette union de la gauche. Que je ne suis pas certaine que ce soit très pertinent de l'appeler union de la gauche. À mon sens, le fait qu'on arrive sur une base programmatique, c'est-à-dire sur le refus de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC, etc., à s'entendre. Et donc, c'est-à-dire que ce n'est pas que quelque chose d'un... Ce n'est pas que des discussions d'appareil qui veulent... placer des gens. En réalité, il y a quand même quelque chose de l'ordre du programme qui s'harmonise, qui fait du bien et qui vient peut-être rattraper des divisions qui étaient générées aussi pour faire en sorte qu'il y ait plus de chapelles, parce que quand il y a plus de chapelles, il y a plus de curés. Et donc, il y a quand même pas mal de divisions qui étaient mises en place parfois de façon un peu factice pour faire en sorte que chacun reste bien le chef de son mouvement. Là, il n'y a plus d'intérêt à être le chef du mouvement parce que sinon, la plupart des autres partis que la France Insoumise s'écrase par terre dans le néant. Et donc, par conséquent, pour sauver leurs appareils, en arrivant encore là, tout le monde accepte l'union. Mais moi, je suis vraiment réjouie que ce soit sur une base programmatique et que ça se passe comme ça.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi aussi, Sana ?
Alors, moi, j'ai trouvé l'initiative, j'étais hyper réjouie, j'étais super contente, vraiment, pour le coup. Mais je suis aujourd'hui hyper déçue. Pourquoi ? Parce que on parle d'union, on parle justement d'une nouvelle union populaire, écologique et sociale. En soi, j'adhère complètement. Ce qui me dérange à chaque fois, c'est qu'on vient toujours chercher les gens des quartiers. À un moment clé, quoi. On met à la marge encore les acteurs de terrain, les associations, les militants et toujours les mêmes profils et les mêmes personnes. Et à un moment donné, stop, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre de nous mettre à la marge, il y en a marre de nous mettre de côté, de venir nous chercher quand il y a besoin. Je trouve qu'il y a une forme d'humiliation et de manque de respect. Et ça, ça passe plus. Cette colère ne passe plus. D'autant plus que pour mon expérience à moi, en tout cas sur cette union, j'étais hyper contente lorsque cet appel est sorti. Enfin, j'ai fait partie de ces personnes lors de la dernière ligne droite à avoir appelé à voter Jean-Luc Mélenchon, à nous être positionnés, dans la continuité de tout ce qu'on met en place, d'avoir fait le job quoi, sur le terrain, etc. D'avoir aussi également, pas forcé la main, mais en tout cas d'avoir alerté dès le départ, avant même le premier tour, d'avoir commencé à aller échanger avec les partis, notamment avec le FI local, les écologistes, etc., en disant « Venez les gens, on travaille ensemble, on travaille maintenant, main dans la main, ne nous mettez pas de côté, ne faites pas les mêmes erreurs, etc. » On a fait des communiqués, on a fait pas mal de choses. Enfin, vraiment, on est rentré dans des codes que forcément, on n'a pas forcément quand tu es une liste citoyenne, etc. On essaie de rentrer dans le truc pour dire « Eh oh, on est là !» Et là, douche froide. Donc, du coup, il y a des échanges, mais on nous prend pas au sérieux, on n'est pas autour d'une table. On nous lâche des vues. Je dis ça, mais tu vois, avec des gens du côté national et autres, tu vois, où on te dit au local, c'est pas là que ça se décide, c'est au national. Donc, tu vas à la source, t'échanges, tu dis voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qu'on vaut sur le terrain, voilà ce qu'on pèse, il y a des chiffres. Voilà les projets qu'on a mis en place. Voilà, on est aligné sur les valeurs, on est aligné sur beaucoup de choses. venez, on travaille vraiment ensemble, venez, on essaie vraiment de créer cette inclusion et ne nous laissez pas la marge. Je dis nous, les femmes racisées, les gens des quartiers, enfin, il y avait tout ça. Et là, je me suis dit non, ça va pas, ils ne vont pas oser positionner. Et là, j'apprends que non seulement, donc du coup, on n'est pas, on ne fait pas partie de ces tables rondes, des échanges, des discussions, on ne nous calcule pas, on ne nous donne pas l'heure, comme on dit sur le terrain, mais surtout, je vois qu'on donne justement cette investiture à un ancien LRM qui a changé 3 fois de veste, enfin, tu vois ce que je veux dire, avec tout son parcours qui a 30% d'abstention à l'Assemblée, qui est aux abonnés absents sur le terrain, qui a des positions assez intéressantes. Je veux dire, en termes de communication, ça, on ne lui retirera pas. Mais en termes d'action, d'actes, etc., je me dis non, ça, ce n'est pas possible. Et quand tu vois ça, je me dis, on marche sur la tête. Du coup, cette colère et cette déception, c'est même plus une colère, c'est une déception qui conforte un peu l'émotion, enfin le sentiment que j'avais un peu avant. Mais du coup, cet appel à l'union, j'y croyais quand même et j'étais en mode optimiste et tout. Et là, il y a 2 choses. Donc, soit on veut nous mettre la responsabilité de dire il faut se retirer, sinon vous allez faire perdre la gauche. Et ça, non, c'est bon. On fait perdre le front, enfin, on laisse le Front National au machin. Enfin, ah, c'est bon, ça, l'effet barrage, c'est mort, quoi. Et là, on se dit, bon, OK, on prend acte de ce qui s'est passé. On prend acte. On s'est remobilisé avec nos soutiens. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut savoir, sur la 10e, c'est particulier. Donc, depuis cette nomination, c'est hyper compliqué. En interne, les militants ne veulent même pas faire campagne pour ce candidat. Donc, je dis bien que je suis un peu en colère contre le candidat NUPES de la 10e. C'est vraiment ça. Donc, il y a des dissidences qui vont sortir ou qui sont en train d'émerger, etc. Et nous, on a décidé tout simplement de continuer et d'aller au bout, justement, des rendez-vous et de se dire à un moment donné, c'est pas sans nous que ça se fera. Nous aussi, on s'en mêle, comme le collectif s'en mêle. Et on essaiera tant bien que mal d'y arriver. Donc, voilà un peu. Donc, je suis entre l'initiative. J'ai adhéré à l'initiative et vraiment déçue de la chute de ces échanges et de cette un peu, en fait, ces nouvelles unions populaires écologistes et sociales, je dirais plus nouvelle union des partis écologiques et sociales. Populaires, c'est nous, les partis, c'est eux. Et aujourd'hui, je suis un peu dans ce mode là quoi.
Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, je suis un peu montée au créneau là-dessus moi-même cette semaine. Sur Internet, j'ai fait un tweet en dénonçant le fait qu'en fait, parce que je m'en rends compte et je m'en rends compte aussi dans mon entourage, toi, tu es un exemple de ces femmes qui ont été sacrifiées, de ces femmes racisées qui ont été sacrifiées pour cette union, au profit d'hommes blancs, généralement, qui sont déjà en place depuis un petit moment. Et on est venu un peu m'engueuler, genre en mode « Ouais, mais de quoi tu parles ?» et tout, t'as des infos ?» Bah ouais, en fait, parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel sur Twitter, sachant que j'avais quand même déjà pas mal d'exemples en tête, donc je vais pas lâcher des noms parce que j'ai pas envie non plus, si ces personnes n'ont pas envie, tu vois, d'être pointé du doigt, je peux l'entendre aussi. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai reçu quand même beaucoup de messages de meufs qui sont venues me voir en me disant, bah déjà, merci Léa. Moi, je ne peux pas l'ouvrir parce que ben, je salue l'union, donc je ne peux pas non plus jeter l'opprobre sur un truc sur lequel on est en train de taffer depuis des mois, voire des années pour certaines. J'ai été investie par mon parti, j'ai été écartée ou envoyée à je t'en fouille, genre au bout du monde ou dans une circo non gagnable au profit, enfin pour un mec qui vraisemblablement va remporter cette circo haut la main. Il y a un vrai problème en fait, et je suis vraiment choquée en fait, et ça me fait chier parce que moi aussi je suis super contente. Cette union, pour moi, ça a été, j'ai failli en pleurer quoi, tellement j'étais contente qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe. Et j'en parle vraiment avec énormément d'émotion parce que j'en pouvais plus de voir que les partis étaient en train de se déchirer, que la gauche était complètement absente de grands rendez-vous nationaux. Là, je me dis, yes, enfin, on va peut-être y arriver. Et là, je me dis qu'il reste un truc qui ne va pas, quoi. Il reste un truc qui ne va pas. Donc, OK, super, je salue cette union. J'en suis très, très contente. Mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et je pense qu'il est nécessaire. Et moi, dans ma position en plus observatrice de la vie politique, moi, je n'ai aucun enjeu là-dedans. Je ne vais pas perdre de circo. Je ne vais pas perdre quoi que ce soit. Je m'en tape. Je pense que c'est aussi mon rôle de le dénoncer et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, OK, c'est bien. Mais franchement, il va falloir faire gaffe. Effectivement, il y a eu des pots cassés. Il y aura encore des pots cassés. Et clairement, je pense que là, ça, c'est clair qu'il faut ouvrir notre gueule parce que c'est pas possible. Sabrina, je te laisse aussi réagir, excuse-moi.
Mais non, il n'y a pas de souci, merci. Mais c'est vrai que je partage à la fois ce que Mathilde a dit et ce que Sana aussi a dit. C'est que d'un côté, on est vraiment mais pleine d'espoir, heureuse. Enfin, franchement, NUPES, quand je disais NUPES, mais NUPES, j'apprends que c'est NUPES. Donc... Mais vraiment, c'est un moment historique. Je ne sais pas, enfin, je ne pense pas qu'on prenne la mesure là maintenant de ce que c'est. Surtout pour notre jeunesse. Enfin, moi, je n'ai jamais connu un tel élan d'espoir. Hein. Mon premier souvenir politique, pour moi, c'était 2002. Quoi. Notre génération, elle a connu que l'austérité, l'accaparement des richesses, la montée de l'extrême droite, les renoncements et plus récemment, en fait, l'éco-anxiété carrément avec l'inaction climatique. Et là, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment historique et ça suscite un espoir en fait immense. Et c'est vrai que c'est ce que disait Mathilde, elle disait qu'on avait une vraie logique d'union avec une vraie base politique de rupture, avec des éléments programmatiques qui sont forts et qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler le Front populaire et les différentes avancées comme les congés payés, réduction du temps de travail, etc. Vraiment, on est en train de vivre un moment historique, on est en train d'écrire l'histoire, les manuels d'histoire parleront de ce moment-là, on est vraiment en train de réaliser quelque chose que personne ne pensait plus possible en France, mais c'est vrai qu'il y a un bémol. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de tout le monde attend un petit peu, tout le monde cherche, ouais, c'est qui notre Alexandria Ocasio-Cortez française? En fait, il n'y en a pas une, il y en a vraiment plusieurs. On veut ces profils à la hausse, mais à gauche, on est incapable de les faire monter parce que c'est déjà ultra compliqué au sein des partis et ça l'est d'autant plus en fait avec cet accord NUP parce que les partis ont ce réflexe de se replier sur eux et en fait ils placent un peu leur cacique. Bah, bien sûr, c'est normal, c'est une logique de parti pour sauver les meubles, mais cela se fait souvent en fait au détriment des profils qu'on a du mal à capter, qu'on aime bien mettre en avant en temps normal et qui deviennent aujourd'hui la dernière roue du carrosse, quoi. En fait, c'est paradoxal parce qu'on est des partis de gauche, on dit défendre, que ce soit les plus précaires, les quartiers populaires, mais dans cette union, en fait, plus on avance dans cette union et plus les appareils politiques, en fait, s'affirment et les personnalités qui incarnent des luttes, des combats, on les laisse sur le bas-côté et ça laisse très peu de place, en fait, à l'irruption démocratique et ça empêche, pour moi, c'était l'un des problèmes fondamentaux, ça empêche de répondre à ce manque de représentativité dont on souffre grandement, en fait, dans notre 5e République, même globalement dans la démocratie, parce que ce dont on a besoin sont des personnes à qui on peut s'identifier. C'est ce que disait Sana tout à l'heure, c'est son voisin, son boulanger, la voisine, la caissière, les personnes par exemple qui se sont battues pour aller faire réparer votre ascenseur dans le quartier parce que ça faisait des années qu'ils étaient hors service. C'est votre aide-soignante. En fait, ce sont vraiment des gens qui sont directement impactés par les décisions qui sont prises au même titre que n'importe quel électeur. Et en fait, cette proximité, cette connexion qui est gage de confiance par excellence. Et ça donne vraiment tout son sens à la démocratie représentative. Et c'est réellement comme ça, j'en suis convaincue, qu'on se battra durablement contre l'extrême droite et cette défiance vis-à-vis de la politique, mais au sens noble du terme. Moi aussi, j'ai une anecdote, c'est un parti qui moi, j'avais une certaine circo, je voulais être candidate sur une certaine circo, puis le parti me dit, ouais non, on te propose la circonscription juste à côté, n'exagère pas, quoi. Mais en fait, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans la manière, en fait, dont j'envisage mon engagement politique. Je ne veux pas être élue pour être élue. Si j'ai un ancrage, en fait, sur une circonscription particulière, c'est parce que des personnes me font confiance, parce que des personnes m'identifient, savent qui je suis, quels sont mes combats. Je ne vais pas aller, même si c'est juste à côté, je veux dire, ça dépouille de tout son sens. Et en fait, c'est là où on sent, en fait, le fossé entre les partis et parfois, en fait, notre réseau, ce qu'on a fait sur le terrain, les gens qui nous identifient. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage.
Merci Sabrina, je suis tout à fait d'accord 100% avec tout ce que tu as dit. Mathilde, toi tout à l'heure en introduction, tu disais que tu voulais continuer à faire de la politique, mais tu voulais en faire différemment en fait. Est-ce que il y a un sentiment de ras-le-bol peut-être, de ce décalage aussi entre ce qu'on vit, ce qu'on porte, nos engagements et la réalité du jeu politique et de la prise de décision et du pouvoir en réalité ?
Moi, je suis de plus en plus persuadée que les partis politiques tels qu'ils sont gérés maintenant par des hommes blancs, bourgeois, en fait, ont peur de faire émerger de nouveaux profils. Et c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Je pense vraiment qu'ils ont peur d'être ringardisés en deux secondes, parce que c'est effectivement ce qui va se passer dès lors que de nouvelles personnes, avec de nouvelles valeurs, une autre façon de parler, de s'amuser. Enfin, c'est-à-dire que ça va devenir joyeux, la politique, quand des profils vont arriver, on va cesser les réunions grises, pourries, où tout le monde s'écoute parler, qui ont lieu tard le soir, d'ailleurs exprès pour que les femmes qui ont des enfants ne puissent pas être là, hein, enfin, vraiment. Donc, en fait, il va y avoir un renouvellement, moi je pense que c'est inéluctable, c'est-à-dire que ça leur arrive en pleine face. Sandrine Rousseau, son score magistral chez les Verts en est le premier signe, je pense, parce que c'est des choses qu'elle a portées avec force, conviction, qui était au centre de son discours et qui, en fait, ont reçu des suffrages assez importants. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas contesté le vote du second tour, mais bon, bref, ça, c'est une autre question. Donc, moi, vraiment, voilà, ouais, c'est pour ça que je veux, en tout cas, dans le monde institutionnel qui se prépare, c'est-à-dire l'Assemblée nationale prochaine, à mon avis, les choses n'auront pas changé encore, vu comment, c'est ce dont vous témoignez, Sana et Sabrina, c'est-à-dire que y a eu des personnes qui ont été écartées, donc l'Assemblée nationale, elle sera encore avec ses.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vieux ressort là, ces vieux codes là, ces vieux mecs là. Voilà. Moi, j'ai envie de faire en sorte de. En tout cas, moi, j'ai envie d'aider à une sorte de. D'impulsion à côté, quoi. Je ne vais pas rester 5 ans encore à me taper ces trucs-là.
Voilà. Non, ouais, c'est clair. Mais en plus, ce qui met particulièrement le seum, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est de se dire, bon, OK, si que En Marche vient pas investir des profils de jeunes femmes racisées et pousse ces profils-là, je trouve pas ça super surprenant en quelque sorte, quoi. Mais là où ça me met vraiment le seum, c'est quand c'est la gauche, en fait. C'est clair. Et Sabrina, tu insistais là-dessus, Sana aussi. Il y a cette question d'incarnation qui est fondamentale en politique. Alors, bien sûr qu'on vote pour un programme. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas une incarnation de ce programme. Je veux dire, c'est quoi un programme antiraciste qui est porté que par des Blancs? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est bien. Hein, je dis pas que les Blancs ne doivent pas être antiracistes, hein, loin de là. Mais bon, enfin, merde, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être en cohérence. Et ça, moi, j'en ai parlé notamment avec des femmes élus de partis de gauche qui me l'ont dit, j'en ai marre de porter un discours et de voir qu'à côté de moi, ce n'est pas des personnes qui peuvent incarner ce discours. Et les femmes qui sont des femmes aussi jeunes ou racisées dans les partis politiques aujourd'hui ou des élus, elles ont une responsabilité sur leurs épaules qui est super forte. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'elles sont seules. Elles sont seules. Il faut qu'il y ait davantage de profils comme ça qui émergent, au-delà des enjeux de représentativité, aussi pour la nécessité en fait, de porter un discours et un combat politique qui soit cohérent avec les personnes qui le portent en fait, et qui connaissent les réalités des discriminations, des inégalités. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Si la gauche ne réussit pas à faire ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Sana?
Ce qu'on fait, on ne lâche pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi je rejoins clairement ce que vous dites. Aujourd'hui, ce que j'ai du mal à me dire, et là c'est vraiment ma météo du moment, c'est ça la gauche. Si c'est ça la gauche, je ne veux pas en être en fait. Et je me dis, finalement, la vraie gauche, c'est nous. Et on a toute une nouvelle génération à réfléchir à comment aujourd'hui on va créer cette inclusion-là. Donc, tu passes la colère, tu dis OK, tu prends acte de tout ce qui se passe. Et on se dit, on va faire comme d'habitude, hein, on s'est toujours battu. La vie a fait que nos parents se sont battus. Nous, on a hérité de toute une histoire, de tout ça. Et on va continuer d'en faire une force et on va continuer d'atteindre nos objectifs. C'est faire partie du jeu. Et de nous aussi, on veut réfléchir ensemble. Ce qui est fait pour nous, sans nous, sera fait contre nous. Et ça prend tout son sens. Donc oui, on peut avoir des bonnes volontés de faire ceci et cela, mais sans nous, c'est mort, c'est fini. On y a cru une fois, deux fois. Et là, en fait, il y a un truc de détermination en tant que femme, en tant que jeune de quartier, en tant que toutes nos histoires, etc. Et moi, je dis aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir collectivement, essayer aussi de nous aussi se réunir avec toutes ces personnes qui sont en marge, en fait. C'est ce qui est en train d'un peu se créer, c'est de se dire, voilà, on a fait confiance encore une fois et on s'est encore fait avoir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens... on va se rencontrer sur le terre-terre, quoi, sur le terrain, on va se poser, on va échanger, et on va continuer nos combats localement, chacun à son niveau, etc. On va se dire, là, aujourd'hui, on va se réunir, on va s'unir, et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, moi, je pense que la dynamique, aujourd'hui, je me dis, et qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas lâcher, et se dire, aujourd'hui, il faut faire partie de cette fameuse table ronde, et pour faire partie, on va faire comme nos parents, quoi. On va sortir nos armes de terrain, notre engagement, notre sincérité, justement notre pluralité dans nos engagements, l'envie de vouloir faire pour les autres. Et ça, je pense que c'est important de le remettre, de reposer les choses. Et je me dis, là, on a une alternative qui est en train de naître. et reprendre justement toute cette solidarité, etc. Essayer de faire quelque chose vraiment de positif. Donc là, je lance ça comme ça parce que c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Mais on lâche rien, quoi. C'est bon. On a trop. C'est trop.
Ouais, je comprends tout à fait. Et en plus, souvent, moi, j'ai l'impression, et pour l'avoir quand même bien étudié, notamment dans le cas des femmes en politique, qu'il y a quand même cette volonté de dissuader, en fait, dissuader les femmes de s'engager, comme tu le disais, Mathilde, d'ailleurs, par rapport aux horaires. Et là, je pense que ce type d'opération, que ce soit conscient ou inconscient, d'ailleurs, de la part des responsables politiques, a cette tendance à peut-être écarter des personnes qui ont un engagement très sincère et qui sont prêtes à lutter, à porter des programmes, tu parlais du terrain, à aller sur le terrain, à vraiment faire le taf, qui vont se dire, mais en fait, moi, j'en ai marre, quoi, j'ai envie de jeter l'éponge, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me prendre des coups, j'ai pas envie... C'est déjà tellement compliqué de faire de la politique. Donc, comment on fait pour... Justement, toi, tu parlais, j'entends un peu dans ce que tu disais, l'idée de se structurer à la marge, comme tu disais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de faire en sorte, au-delà de cette structuration entre personnes, comment les partis politiques pourraient justement essayer quand même de soutenir ces candidatures ? Tu parlais d'AOC à la française. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les partis politiques se saisissent de ça et en fait soutiennent ce type de candidature ? Sabrina, toi, tu as des pistes de réflexion pour ça ?
En fait, force est de constater qu'il est plus facile, par exemple, pour nous de nous applaudir, en fait, qu'on soit militants du quartier populaire ou alors les femmes, les caissières, etc., qui étaient les premières de corvée, comme on dit, hein, les deuxièmes lignes pendant le Covid, c'est plus facile de nous applaudir que de nous investir. Donc, je veux dire, c'est quand même à gauche, quoi, c'est quand même relativement fou. Alors, comment on pourrait faire ? Je ne sais pas, mais je rejoins Sana, c'est peut-être au-delà de se structurer, peut-être essayer d'avoir, de créer cette espèce d'espace, ou alors collectivement en tant que femme, on dit mais écoutez les gars, c'est super, NUP, NUPES, comme vous l'appelez, mais je veux bien, ok, mais ça ne se fera pas sans nous en fait. Et je pense qu'il y a copie et à revoir pour certaines candidatures NUP, il y a des ajustements qui doivent être faits en fait. Et je pense, je ne sais pas si vous avez vu ce député PS qui était contre le mariage pour tous, qui a investi, donc je ne sais pas de qui il a pris la place, mais voilà, il y a des candidats qui, on estime les candidats investis issus des quartiers populaires à moins de 2%. Enfin, je veux dire, pour une union populaire, nouvelle union populaire, c'est vraiment très bas, ou alors encore des jeunes, comme vous l'avez dit, hein, des jeunes qui n'ont jamais été députés, qui incarnent quelque chose, ou même ne serait-ce que d'être jeune, déjà, c'est déjà un truc dingue, quoi, d'avoir des jeunes à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une opportunité historique pour la gauche, mais non, on envoie des députés qui sont députés déjà depuis 20 ans, et pour rester poli, dont on a du mal à évaluer la plus-value, hein. Qui représente, qu'est-ce qu'ils représentent, en fait, ils sont tous issus du vieux monde, et on a dans cette union-là, on a à la fois des personnes, et je pense qu'il y a des partis, et je ne dis pas que les partis le font volontairement, sciemment, les structures, non. J'ai vu que le boulanger dans le Doubs a été investi par Europe Écologie Les Verts, c'est déjà génial, mais je pense que c'est pas assez suffisant, et la manière dont on pourrait faire, c'est, je sais pas, structurer le collectif, et je pense que c'est ce que voulait faire quartier général, que j'ai soutenu et dont fait partie Sana, Kevin Vacher, et puis Charles Brain, si je me trompe pas. Voilà, en gros, c'est essayer de rassembler ces espèces de candidatures, parce qu'elles ont bien senti que les partis vont essayer de s'accaparer un petit peu le gâteau, et que, en fait, nous, on sera là juste là pour compenser, en fait, ces différents trous dans la raquette, quoi. Et on n'est pas là pour ça, en fait, c'est vraiment ça. Et là où je rejoins aussi Sana, c'est vraiment cette espèce de rage. En fait, ça nous donne plus, ça nous donne la rage bide, en fait, pour être ne serait-ce que là où on est, c'est-à-dire des militantes politiques, quand on est issu de milieux précaires, quand on est des racisés, en fait, on s'est battu. En fait, on a la niaque. Là où on est, on n'est pas arrivé parce qu'on nous a ouvert les portes, parce qu'on a dit ouais, c'est super. Non, c'est souvent au prix de coups, de sacrifices, et j'ai pas peur de le dire, hein, souvent de larmes, mais je l'assume totalement. C'est pas juste un concours de circonstances qui est fortuit, parce que ça ferait beaucoup, beaucoup de circonstances pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, mais il y a bel et bien encore un plafond de verre. Et comme je le dis, je pense que la copie est à revoir pour certaines candidatures NUP, et je pense que ça devrait pas se faire sans les quartiers pop et sans justement ces militants de terrain que sont Sana, Kevin et compagnie.
C'est clair. Moi, je me disais, Sana, vas-y.
Non, c'est juste pour compléter sur ce que dit Sabrina. Tu vois, Sabrina, là, comme moi, là, mon cas, c'est vraiment un cas d'école. Hein. Sur le terrain, actuellement, etc., je fais partie de quartier général, j'ai intégré l'Académie des futurs leaders. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, t'as des structures qui se sont créées justement pour lutter contre ça, etc. Et je me suis même rendu compte que, tu vois, au sein même de quartier général, etc., avec toute la volonté, tout le taf que fait Sarah Durieux, Noé, enfin, franchement, je les remercie vraiment parce qu'il y a un taf de dingue qui est fait et on voit bien que les traitements ne sont pas pareils. Enfin, moi, je suis aussi, du coup, Stéphane Ravac, le boulanger du Doubs qui est mon camarade de promo et que je pousse, on se soutient, on demande de la force, Loumir et bien d'autres encore. En fait, c'est des gens, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont venus chercher faire leurs courses. Et en fait, du coup, finalement, pour moi, hein, ça a été aussi violent. Violent parce que je me dis, en fait, c'est comme si on dit, ah ben non, on a été chercher des candidats de chez Quartier Général au sein de l'Académie des futurs leaders, etc. Donc, on a été chercher Alma Dufour au sein de l'Académie des futurs leaders. Donc, OK, elle a été investie. Loumir, c'est Stéphane Ravaclet. Tu vois, et encore une fois, on revient et c'est une réalité et je suis hyper contente pour mes camarades et je me dis qu'au moins, s'ils sont à l'intérieur, ils vont réussir, ils vont porter la voix des autres. Mais encore une fois, en fait, ce qui m'a fait mal et ce qui me fait mal, c'est que même en intégrant des instances avec des personnalités engagées comme Sarah Durieux, comme Alice Barbe, comme Mishka Benjio, etc., où genre il y a une sorte de cooptation, il y a un label, tu vois ce que je veux dire ? Et là, les mecs, ils te donnent pas l'heure, on te regarde pas. Et en gros, on a fait nos courses. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas une double violence pour nous encore ? Et il y a un genre de rejet. Il y a un truc en moi, et je pense de toutes les personnes des minorités, peut-être que Sabrina aussi, tu vas le ressentir un peu comme ça ou pas, et puis Mathilde aussi, c'est que moi, en tout cas, c'était ça, en fait. En fait, j'étais autant contente et ça m'a fait mal parce que je me suis dit, regarde, tu rentres dans les codes, tu rentres dans les trucs, t'essayes parce qu'on te dit tout le temps, oui, mais Sana, t'es que sur le terrain, tu sors pas du local et puis tu machin. Et quand tu rentres dans ces cercles, quand tu rentres dans les réseaux, j'ai été soutenue par des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer sans l'AFL ou sans Quartier Général, des personnalités engagées, les Priscilla Ludowski, Maxime Letellier, Ismaël Lemoyle, plein d'autres personnalités. Et je me dis, même avec des gens, on va dire en place, qui sont quand même suivis par des milliers de personnes, les gens, en fait, on nous a... Et comme j'ai parlé directement avec, justement, les décideurs, je te jure, ils me lâchaient un vu à moi et ils répondaient aux autres. Et il y a un truc un peu colonial que j'ai ressenti et ça m'a renvoyé à toute l'histoire de nos parents, de nos grands-parents qui se sont battus pour la France. Et il y a tout un... Tu vois, il y a un truc post-traumatique qui ressort et c'est hyper violent. Et donc, du coup... Enfin voilà, après tout ça, tu le transformes en mode, bon, t'éparpille pas dans tes émotions, recentre, tu vois, et allez, continue ton engagement, il faut aller jusqu'au bout. Et tout ça, c'était juste pour compléter sur ce que disait Sabrina, il y a des choses qui se créent à côté. Et là, en fait, je me dis que finalement, ça ne suffit pas, ces structures qui se créent à côté, il faut que nous, gens de terrain, gens racisés, gens, etc., et ben, de s'unir aussi et d'en être et de s'unir avec toutes les autres structures, etc., pour se dire à un moment donné, hey, c'est bon, parce que du coup, ça ne suffit pas. Enfin, voilà, c'était juste...
Eh ben, tu peux compter sur moi, sache-le, si tu as besoin de ça, Sana.
Merci.
Merci beaucoup. C'est important aussi d'avoir vos ressentis. En fait, les émotions, c'est important aussi en politique. Faut pas l'oublier. Je pense qu'on gagne à avoir davantage d'émotions et de sortir de ce tout rationnel qui est l'exemple parfait étant Emmanuel Macron et qui est quand même très, très gênant. Bref, petite parenthèse à part. Moi, je voulais vous poser une question. Ce sera peut-être la dernière question sur ce thème. Et c'est pour Mathilde. Allez, la petite question de la fin. Est-ce que ça va avoir des conséquences pour les partis de gauche, ça ? Quelles conséquences, en fait ?
L'union ?
Non, le fait que des personnes aient été écartées. Des personnes qui pouvaient justement incarner un combat et incarner aussi le programme, finalement, qui est porté par les partis de gauche. Quelles conséquences ça peut réellement avoir à court ou moyen terme, voire long terme, sur ces compositions politiques ?
À court terme, moi, je pense que pendant 5 ans, on va perdre encore du temps. On va perdre encore des récits. On va perdre encore des avancées politiques qui pourraient être amenées par la mise en valeur d'expériences différentes et des solutions en fait que les hommes, que les personnes au pouvoir qui n'ont pas nécessairement l'expérience d'une forme de précarité, plein d'expériences différentes quoi, qui n'existent pas dans le sein politique et qu'on perd. Après, je pense que c'est un peu ce que tu disais, Sarah, et ce que tu disais, Sabrina. Ça donne la niaque en vrai. Et pendant 5 ans, en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que ça va apporter au parti, c'est ce que ça va nous apporter à nous. personnes qui nous mobilisons quotidiennement. Et voilà. Et comment on va faire pour se structurer pour dans 5 ans et recommencer dans 5 ans. Enfin, c'est Sisyphe, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup à toutes les trois. Je suis vraiment super contente qu'on ait pu parler de ce thème et qu'on ait pu aussi avoir vos expériences, vos retours d'expérience. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, quand j'ai mis mon fameux tweet, tout le monde était là, bon, vas-y, donne des infos et tout. Tu dis n'importe quoi. Ben voilà, j'ai promis qu'il y aurait des personnes concernées qui seraient là aujourd'hui sur cet épisode pour faire part en fait de leur expérience, de la réalité aussi que ces investitures impliquent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'en avoir témoigné, d'avoir pris le temps aussi d'en discuter avec nous aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Et on va peut-être passer à vos petites actus, aux petites infos que vous souhaitiez partager avec nous. On va commencer avec toi, Sabrina. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Et moi, j'ai essayé de couper et d'avoir une note un peu plus joyeuse, sortir un petit peu tout ça, parce que je pense qu'on en a besoin. C'est vrai qu'on a la colère, etc. Moi, je voulais juste parler de Kikessa. Je pense qu'il est relativement connu, qui a sorti son album le 24 mars 2022, l'album Ruby. Et j'ai une affection particulière pour le morceau Rap Machine, où il évoque aussi, lui aussi, son passé de caissier et de jeune précaire, en fait, où il dit « Ouais, j'ai taffé chez Aldi, chaque centime, je sais l'apprécier. Encaisser les E, c'est cool, sauf quand t'es caissier, là, ça fait chier. » Et en fait, voilà, j'aime bien cette petite punchline, et ça regorge de punchline. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Kikessa, c'est un rappeur d'origine nancéenne, c'est notre petite pépite locale, c'est aussi pour ça que j'avais envie de mettre en valeur. Et puis, pour la petite anecdote, son producteur était un ami, on était ensemble au collège, vraiment zone d'éducation prioritaire, ZEP à l'époque, on appelait ça, et je crois vraiment qu'on doit être les deux seuls de tout le collège, toute promotion confondue, qui s'en sont vraiment sortis, parce que c'était vraiment la galère à l'époque. On a pas mal de camarades qui se sont retrouvés sur le bord de la route, voilà, dans divers domaines, quoi. Ça peut être la prison, ça peut être perdre la vie, ça peut être retrouver dans le machin, donc vraiment, voilà, je souhaitais aussi le mettre en avant, et puis je ne sais pas s'il entendra ça, mais voilà, en tout cas, on est fiers, et voilà, la petite note positive pour clôturer.
Merci beaucoup, Sabrina. Sana, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Oui, alors le truc positif, c'est que j'ai rencontré ces derniers mois des personnalités vraiment importantes, inspirantes et engagées, des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer en étant rentrée, en restant localement, etc. J'ai intégré l'Académie des Future Leaders en janvier, une académie qui a été créée en vue de repérer justement des activistes, des personnalités engagées, en vue d'accompagner et de mettre en lumière les futurs politiques de demain, des gens comme moi et bien d'autres, hein, Priscilla, Fanny, Anne, Stéphane Ravaclet, etc. Des gens, j'aurais jamais pu rencontrer ces personnes-là. Alors, on a pu justement découvrir, en tout cas pour ma part, des cours hyper intéressants, gestion des émotions, les neurosciences, des parcours et des trajectoires hyper puissantes, avec justement en complémentarité quartier général initié par Noé et Sarah Durieux. Et je pense que ça, c'est des initiatives qui sont mises en place, en tout cas assez positives, pour créer une nouvelle génération en 2027. Et je me dis, ça donne de l'espoir. Je rentre à peine des États-Unis, ça m'a permis justement d'aller aux États-Unis, Washington et New York, d'aller à la rencontre. Donc moi, je suis vraiment je ne vais pas dire une fan, mais en tout cas, elle est assez inspirante, et je trouve qu'il y a pas mal de choses pareilles avec Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer ses collaborateurs, d'aller sur place au congrès, etc. Enfin, j'ai rencontré Karen Olson. Et pareil, il y a le Next Level, en fait, avec Tara Dickman. C'est des structures, des associations qui sont là, en fait, et qui me permettent, moi, aujourd'hui, de me dire, waouh, il y a des gens quand même bienveillants qui sont prêts, justement, à construire ce pouvoir-là et à nous amener de l'avant et permettre de... Donc voilà, moi, je voulais, en tout cas, leur dire merci, leur dire que, voilà, enfin, on est ensemble et on lâchera rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc moi aussi, c'est ma petite touche un peu positive. Et pour la petite histoire, moi, je viens d'avoir un petit bébé. Donc je fais ma campagne avec, j'ai un petit bébé de 6 mois. Et donc j'ai pu justement, ils ont accepté de m'intégrer au sein de ces dispositifs en étant maman. Donc comme j'allaite mon enfant, je reviens des États-Unis avec mon bébé, où j'ai pu justement pas casser mon rôle de maman et de pouvoir aller au bout et de continuer cette trajectoire politique. Et rien que pour ça, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait penser la politique, permettre à des gens, à des femmes, de pouvoir aller au bout de leur engagement et de se dire, bah oui, c'est possible. Donc voilà, et Léa, je voulais te remercier parce que pour ma part, j'ai pas beaucoup d'accès aux médias. J'en ai fait très peu d'ailleurs. C'est, je crois, mon deuxième podcast. Le premier, c'est Osama qui a lancé, pareil, une chaîne récemment. Donc, ça m'a fait plaisir. Et du coup, c'est aussi par vous, par des médias comme ça, qui nous permettent de nous donner la parole, de pouvoir justement nous rendre visibles. Et pour ça, merci. Et continuez de le faire parce qu'on en a vraiment besoin.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet élan de positivité, je ne sais pas comment le dire, mais bon, bref, c'est cool. Effectivement, on ne va rien lâcher. Et comme je le disais, Popol, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi cette volonté de visibiliser des profils nouveaux, de visibiliser des engagements, de donner la parole à des femmes qui s'engagent et qui n'ont pas effectivement la chance d'avoir un espace pour valoriser ce qu'elles font. Donc, ravie de t'avoir aussi reçu. Et enfin, Mathilde, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît?
Moi, je voulais revenir sur une ancienne bataille littéraire, artistique, qui est séparer l'homme de l'artiste. C'est quelque chose qui est revenu au moment de l'affaire Polanski. Ouais, on finit pas sur une note légère, du coup, je suis vraiment désolée. On revient dans le lourd. C'est quelque chose qui est revenu pendant l'affaire Polanski, où on s'est rendu compte réellement qu'en fait, avoir le statut d'artiste, c'est quelque chose qui permet de s'élever comme ça, au-dessus de la nuée humaine normale, qui permet de prendre de la hauteur, d'ailleurs de pouvoir parler de tous les sujets sans avoir à justifier de là où on vient, de qui on est, de pourquoi on parle, etc. Un peu comme les mecs aux États-Unis quand ils parlent de l'avortement, quoi. Enfin, il y a quelque chose un peu comme ça. Et qui, en réalité, permet surtout en fait, de ne plus être tenu pour responsable. Moi, je pense qu'on a de ne plus être tenu pour responsable de ses actes, etc., parce qu'on est un artiste, et donc par conséquent, on ne juge que l'art. Et donc, l'homme a disparu, et on est rentré dans une sorte de non-humanité, en fait, et de Dieu, en fait, on devient Dieu. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'on reste encore dans un monde politique où on est vu comme un artiste, c'est-à-dire qu'on est déifié, comme ça, mis au-dessus des autres personnes, et que c'est ça le réel problème, il me semble, de ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire la façon avec laquelle on est capable de placer des personnes au-dessus de tout le monde, qui vont parler de tout à la place de tout le monde, et voilà. Et je pense que Proust, faudrait qu'il revoie sa copie, quand il s'est attaqué à Sainte-Beuve sur cette question-là, pour des raisons, bref, mais je pense que c'est un vrai sujet sur comment on se positionne quand on fait de la politique, d'où on parle, etc., et de quoi on est responsable et tout. Et voilà, mais bon, du coup, on revient sur le sujet. Et...
Non, mais c'est aussi important, effectivement, de le rappeler, hein, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, 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 toutes les trois, d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol. Je rappelle que vous pouvez soutenir le développement de Popol en allant sur notre petite cagnotte Ulule et en lâchant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 200 balles si vous le souhaitez. Et si vous le pouvez, bien sûr. Merci beaucoup, merci par avance. À bientôt.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Vous savez quel pays a légalisé l'avortement en premier dans l'histoire ? Non, c'est pas un pays scandinave, pour une fois. La Norvège a commencé à travailler sur le dossier en 1934, la Suède en 1938... Et la Finlande a adopté la légalisation de l'avortement en 1950. Non ? Eh bien, c'est la Russie. Et pas n'importe laquelle. La Russie bolchévique. En 1920 et sous l'impulsion de Lénine, il s'agissait de protéger la santé des femmes pour favoriser le travail féminin. Il était possible, et à n'importe quel stade de la grossesse. Bon, je vous rassure, il a été interdit sous Staline, puis légalisé à nouveau à la fin de l'ère soviétique en 1955. Et aujourd'hui, en Russie, l'avortement est autorisé et pris en charge sur fonds publics jusqu'à la 12e semaine de grossesse et jusqu'à la 22e semaine de grossesse en cas de viol. Vous l'avez sûrement entendu cette semaine, le droit à l'avortement connaît des heures difficiles aux États-Unis.
Women's rights in America are under attack. How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body?
Et je voudrais vous parler du dernier édito de Nick Christophe, l'un des éditorialistes les plus connus du New York Times, parce qu'il met très simplement en mots et en question ce à quoi les républicains de Louisiane n'ont pas vraiment pensé. Parce que considérer que la vie commence à la fécondation, c'est considérer que l'avortement est un homicide. Et Nick Christophe se pose les questions suivantes. Est-ce que les règles deviennent du coup une scène de crime potentielle car elles contiennent ce qui est considéré comme des restes humains ? Et si c'est le cas, les médecins légistes qui enquêtent sur les morts suspectes seront-ils également assignés à examiner des scènes de règles ? Deuxième question, comment considère-t-on la fausse couche, un homicide involontaire ? Troisième question, et que dire de l'implant contraceptif ? Il peut empêcher la fécondation, mais il peut aussi empêcher l'implantation d'un ovule fécondé. En Louisiane, ça pourrait donc être un meurtre. Et si on s'y rend, est-ce qu'on doit enlever son implant ? Et dernière question, la plus dramatique peut-être, imaginez qu'une ado soit violée et en résulte qu'elle soit enceinte. Ses parents l'aident à avorter. Eux et leur fille risquent un procès pour meurtre, soit plus que le violeur. Alors, le zygote, un être humain comme les autres ? Le sujet est plutôt touchy dans beaucoup de pays et a commencé en Europe. En Andorre, par exemple, l'avortement y est puni de 6 mois de prison pour la femme et de 3 ans de prison ainsi que 5 ans d'interdiction d'exercer la médecine pour la personne qui réalise l'interruption volontaire de grossesse. Le fait de donner des informations à une patiente ou de la diriger vers l'étranger constitue également un délit. Et c'est pas le seul pays européen. On a Malte, où il y a un an, le gouvernement a écarté une proposition de loi ouvrant le droit à l'avortement. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison pour les femmes et les personnes qui les aident, 4 ans pour les médecins. Et puis on a la Pologne aussi, qui prévoit que l'avortement n'est autorisé que pour protéger la vie ou la santé des femmes, ou quand la grossesse résulte d'un viol. Notez qu'en Irlande, il est aussi autorisé seulement depuis 2018. Et souvenez-vous de la France en 1972.
Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait ?
Ah, si je l'ai fait déjà, c'est pas que je l'ai fait.
Est-ce que vous n'avez
pas... Je l'ai fait plusieurs fois et je suis bien contente. Parce que trop de gosses comme ça, c'est pas...
Combien d'enfants avez-vous ?
Oh, maintenant, j'en ai 5, mais j'en avais 8.
Moi, je suis pour.
Vous êtes pour l'avortement ?
Oui, certainement.
Pourquoi, madame ?
Ben, parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la Terre. Alors, mettre des petits-enfants malheureux au monde, et il vaut mieux les laisser où ils sont.
Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception ?
Ah, ça, l'un n'empêche pas l'autre.
S'ils l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors, il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après. Elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors, pourquoi qu'elles veulent le supprimer ? C'est quand même être vivant, après tout.
Vous pensez que le plaisir se paie ?
Exactement.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, 6 grossesses non désirées sur 10 se terminent par un avortement provoqué. Et dans le monde, 125 000 avortements sont pratiqués par jour. L'avortement non sécurisé reste la cause numéro 1 de mortalité maternelle. Pourtant, on se pose toujours la question de l'importance de l'avortement médicalisé. Et ça, c'est au Sénégal. En ce moment, par exemple.
L'Église catholique dit non à l'avortement, que ce soit en cas de viol, en cas d'inceste, et pour toute raison, parce qu'elle considère que dès le moment de la conception, une vie humaine est engagée.
L'école malikite a donné sa lecture de l'interdiction formelle de l'avortement dans l'islam. Il est recommandé de faire en sorte que la fille soit encadrée dans la discrétion. Et après son accouchement, si elle ne veut pas de l'enfant, qu'elle ne le tue pas de grâce. Mais on peut orienter l'enfant vers les pouponnières ou bien vers les orphelinats.
Alors je laisse le mot de la fin à Simone de Beauvoir qui formule beaucoup mieux l'importance du militantisme sur la question.
Je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelés quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter.